Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 15 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
La Guinée rejette un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le pays.
Au Niger, l'opposant Ama Amadou, candidat à la prochaine présidentielle, est rentré hier à Niamey après un exil de 3 ans.
Au Bénin, le Parlement a adopté hier à l'unanimité un nouveau code électoral, mais qui ne répond pas aux principales revendications de l'opposition.
South African Airways annule tous ses vols pour vendredi et samedi à la suite d'un appel à la grève du personnel navigant et technique.
Israël a de nouveau frappé ce vendredi des cibles du djihad islamique dans la bande de Gaza.
Ici aux États-Unis, nouvelle fusillade dans un lycée. 2 adolescents tués hier en Californie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée, le gouvernement s'est défendu hier contre un rapport, volontairement à charge selon lui, d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Par ailleurs, un autre jeune a été tué par balle au cours d'une nouvelle manifestation de masse. Le point avec Eric Manirakidza.
À l'issue du Conseil des ministres à Conakry, le gouvernement a estimé que le rapport d'Amnesty présente des faits insuffisamment vérifiés et recoupés et passe volontairement sous silence les efforts et les progrès réalisés pour consolider l'état de droit et améliorer la conduite des forces de sécurité. Amnesty n'évoque pas les difficultés particulières comme la nature violente et chaotique de certaines manifestations ou le manque de confiance entre certaines populations et le personnel d'application de la loi, poursuit le communiqué. L'ONG a publié mercredi un rapport intitulé « Guinée, les voyants au rouge à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 » et dénombre 70 manifestants tués ces 5 dernières années et dénonce l'usage excessif de la force. Hier encore, un jeune Guinéen a été tué par balle lors de heurts à Conakry après la dispersion musclée d'une nouvelle manifestation. Alpha Souleymane Diallo, 19 ans, est au moins la 18e victime depuis le début, le 14 octobre, d'une mobilisation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé.
Au Niger, Ama Amadou, principal opposant au président Mahamadou Issoufou, est de retour à Niamey après un exil de 3 ans à la suite du décès fin octobre de sa mère. Le point avec Bagassi Koura.
Ama Amadou a regagné Niamey hier. Il s'est rendu directement au cimetière de Yantala pour se recueillir sur la tombe de sa mère. À son retour d'un premier exil, le 14 novembre 2015, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait été arrêté dès sa descente d'avion, puis emprisonné dans une affaire de trafic international de bébés qu'il a toujours qualifié de cabale politique. Ama Amadou, âgé de 69 ans, également ex-premier ministre, est arrivé à la présidentielle de 2016 sans pouvoir faire campagne. Après le premier tour, il avait été évacué d'urgence de sa cellule de prison pour des soins médicaux en France. Il a été désigné candidat à la présidentielle par son parti, le Mouvement démocratique nigérien, mais risque de se voir écarté du scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison. Mais fin octobre, pouvoir et opposition ont annoncé vouloir entamer un dialogue en vue d'apaiser un climat politique tendu à 1 an de la présidentielle en décembre 2020.
Au Bénin, le Parlement a adopté hier à l'unanimité, après 48 heures de discussion, un nouveau code électoral instaurant notamment un poste de vice-président et une meilleure représentation des femmes. Toutefois, les conditions introduites avant les législatives d'avril sont restées inchangées. Il s'agit des récépissés de reconnaissance des partis et le quitus fiscal demandé aux partis qui ont été les points de discorde ayant exclu les partis d'opposition aux dernières élections législatives.
South African Airways a annulé tous ses vols aujourd'hui et demain après un appel à la grève du personnel navigant et technique. Les employés dénoncent un plan de suppression d'emplois de la compagnie sud-africaine très lourdement endettée. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, South African Airways appelle tous les passagers qui doivent prendre des vols intérieurs et internationaux aujourd'hui et demain à ne pas se présenter dans les aéroports. Le porte-parole de la compagnie, Tali Tali, précise que tous les vols de la South African Airways sont annulés pendant 2 jours, soit une centaine de vols quotidiens. Un peu plus tôt hier, les syndicats NUMSA et SACA ont confirmé le début ce vendredi d'une grève à durée illimitée après l'échec de négociations. Ces deux syndicats, qui représentent plus de 3000 salariés sur les 5200 employés de la compagnie, réclament une sécurité de l'emploi pour au moins 3 ans et une augmentation de 8% des salaires. La compagnie aérienne sud-africaine fait partie, avec le géant de l'électricité Eskom, des entreprises publiques qui traversent de très grosses turbulences financières.
En République démocratique du Congo, un deuxième vaccin a été introduit hier à titre d'essai clinique contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, où la propagation du virus marque le pas depuis quelques semaines. Des équipes de l'ONG Médecins sans frontières ont ouvert 2 centres de vaccination à Goma, capitale du Nord Kivu. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a affirmé hier que le président américain Donald Trump avait déjà reconnu des actes de corruption dans l'affaire ukrainienne au cœur de l'enquête pour une éventuelle procédure de destitution contre le président républicain. Précision de Jean-Roger Bion.
Les déclarations de Nancy Pelosi offrent un aperçu des articles de la procédure d'impeachment que les démocrates pourraient mettre en avant au lendemain du début des auditions publiques au Congrès américain dans le cadre de cette enquête. Selon la chef des démocrates majoritaire à la Chambre des représentants, les faits reprochés en 1974 à l'ex-président républicain Richard Nixon, visé par une enquête pour destitution, apparaissent presque petits à côté des agissements de Donald Trump. Les démocrates à la Chambre basse cherchent à déterminer si le président Trump a demandé une contrepartie à Kiev pour les 391 millions de dollars d'aide destinée à faire face aux séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, une aide provisoirement suspendue par le président républicain malgré son approbation au Congrès. Le président Trump réfute ces accusations. Le chargé d'affaires à Kiev, l'ancien ambassadeur en Ukraine William Taylor, et le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires européennes et eurasiennes George Kent ont été entendus mercredi. Une autre figure centrale de cette affaire, Marie Yovanovitch, qui a été limogée en mai dernier de son poste d'ambassadrice en Ukraine, sera entendue ce vendredi.
En Californie, 2 des victimes de la fusillade d'hier dans un lycée de Santa Clarita au nord de Los Angeles ont succombé à leurs blessures. Il s'agit d'une fille de 14 ans et d'un garçon de 16 ans. 6 victimes, dont le tireur présumé, avaient été transportées à l'hôpital après la tragédie. Le suspect, un lycéen de 15 ans, avait pris la fuite après la fusillade au lycée Saugus, qui compte quelques 2400 élèves. Il a été retrouvé par la police environ 1 heure plus tard parmi les blessés qui avaient été évacués.
Israël a de nouveau frappé ce vendredi des cibles du djihad islamique dans la bande de Gaza. Ces nouvelles frappes fragilisent un peu plus un accord de cessez-le-feu entré en vigueur la veille, après 2 jours de combats ayant fait une 30aine de morts dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne, qui a annoncé ses raids, avait signalé plus tôt dans la journée que 5 projectiles avaient été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël. Elle a condamné ce qu'elle a appelé la violation du cessez-le-feu et les roquettes lancées contre Israël et s'est déclarée prête à continuer à agir autant que nécessaire contre toute tentative pour porter atteinte aux civils israéliens.
Les États-Unis et leurs partenaires de la coalition contre le groupe État islamique n'ont pas réussi à s'entendre sur le sort des combattants djihadistes étrangers capturés en Syrie, une des nombreuses questions qui risquent de compromettre les gains sur le terrain contre ces terroristes djihadistes dans ce pays et en Irak. Au cours d'une réunion hier à Washington, les États-Unis se sont engagés à continuer à diriger la lutte contre le groupe État islamique. Malgré cette promesse, les diplomates américains ont été incapables de convaincre leurs alliés de rapatrier quelques 2000 djihadistes qui avaient quitté leur pays pour se joindre à l'ex-califat autoproclamé par feu Abu Bakr al-Baghdadi. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho Manit Talani.
Le Soudan annonce qu'il recevra une aide de 305 millions de dollars du Fonds monétaire arabe destinée à l'aider à résoudre une crise économique persistante alimentée par l'inflation des denrées alimentaires et une pénurie de devises étrangères. Khartoum recevra 110 millions de dollars d'ici fin novembre, 45 millions au premier trimestre 2020 et 80 millions avant la fin 2020. Une aide de 70 millions de dollars est aussi prévue. En Algérie, les députés ont adopté un projet de loi controversé visant à assouplir et simplifier le régime juridique et fiscal du secteur des hydrocarbures dont se sont détournés les investisseurs étrangers. Les Algériens accusent le texte de brader la richesse nationale aux multinationales. La nouvelle loi continue de garantir une part majoritaire à la Société nationale des hydrocarbures dans les partenariats tout en permettant un partage plus favorable aux partenaires étrangers de l'exploitation et des investissements. Elle institue aussi un taux fixe de 30% de l'impôt sur les résultats et la suppression de la taxe sur les profits exceptionnels. Pour terminer, le ministère des Finances du Kenya demande au Parlement d'augmenter le budget 2019-2020 de 86 milliards de shillings. Cet argent supplémentaire servirait à financer entre autres un projet routier, les chemins de fer, le transport et la distribution d'énergie.
Les sports à présent avec Yakuba Ouidraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les derniers matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 se jouent ce soir.
Oui, le Zimbabwe reçoit le Botswana, la Tanzanie, la Guinée équatoriale, la Mauritanie se déplace au Maroc, à suivre aussi le duel maghrébin entre la Tunisie et la Libye. Hier, l'Égypte sans Mohamed Salah a été tenue en échec par le Kenya 1-1, 1-0 pour les Comores devant le Togo, le Mozambique a battu le Rwanda 2-0, 2-2 dans le duel ouest-africain entre le Mali et la Guinée, 0-0 entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Le Ghana a dominé l'Afrique du Sud 2-0. L'Algérie, championne en titre, a été sans pitié devant la Zambie, laminée 5-0.
Didier Drogba, officiellement candidat à la Fédération ivoirienne de football.
C'est avec les pensionnaires de la 3e division ivoirienne que Didier Drogba a débuté ses réunions mercredi à Abidjan. Je suis là pour enclencher le changement et non pour m'enrichir à la FIFA. Je pouvais rester à Chelsea où toutes les conditions sont réunies, mais j'ai décidé de venir m'investir dans le football local parce que j'aime mon pays, a-t-il déclaré. Le projet de Drogba, baptisé Renaissance, s'articule autour de 5 points majeurs qui sont cadre légal et réglementaire de la pratique du football, infrastructure, les acteurs, économie de l'industrie et développement de la médecine du sport. Ces rencontres avec les acteurs locaux se sont poursuivies hier avec les dirigeants de clubs de 2e division puis de 1e division.
Zlatan Ibrahimovic annonce son départ du Los Angeles Galaxy.
Oui, à 38 ans, la star suédoise l'a annoncé sur son compte Twitter, mais n'a rien dit sur sa retraite ni sa prochaine destination éventuelle. Vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan, l'histoire continue. Maintenant, retournez voir du baseball, a tweeté Zlatan Ibrahimovic dans son style habituel. Malgré 29 buts inscrits en autant de matchs au cours de son premier exercice en 2018, le Los Angeles Galaxy ne s'est pas qualifié pour les playoffs, chose réparée cette année. Mais avec au bout une élimination en demi-finale de la conférence Ouest face au Los Angeles FC, au total, Ibra a inscrit 54 buts et délivré 17 passes décisives en 58 rencontres de MLS.
Thierry Henry, nommé entraîneur de l'Impact Montréal.
L'ancien international français de 42 ans se relance dans le championnat nord-américain de football. Thierry Henry est devenu entraîneur de l'Impact Montréal pour 2 saisons au moins, selon la franchise canadienne. Le champion du monde avec la France en 1998 connaît bien la MLS pour avoir porté les couleurs des New York Red Bulls de 2010 à 2014. Nommé à l'automne 2018 sur le banc de son club formateur Monaco, Thierry Henry a été évincé après seulement 100 jours sur le rocher et des résultats décevants. À l'Impact Montréal, il succède au Colombien Wilmer Gabriela qui a assuré l'intérim pendant 2 mois après le limogeage en août du Français Rémi Garde. Basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Miami et Cleveland 108 à 97, New York et Dallas 106 à 103, Milwaukee et Chicago 124 à 115, la Nouvelle-Orléans et LA Clippers 132 à 127, Phoenix et Atlanta 128 à 112, et nous aurons dans notre édition de 7h temps universel le résultat du match Brooklyn-Denver.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, un deuxième vaccin a été donc introduit hier à titre d'essai clinique contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Des équipes de l'ONG Médecins sans frontières ont ouvert deux centres de vaccination à Goma. Plus de 40 000 personnes sont attendues avec plus de 500 000 doses à administrer dans le Nord Kivu. Les précisions de Charlie Kasereka.
Pour le lancement de cette campagne, des centres de santé ont été ouverts par les autorités sanitaires dans les quartiers populaires de Kayembe et Majengo. Nineiro Joseph, un homme, la quarantaine révolue, a été la première personne vaccinée tôt ce matin à Goma.
Je suis venu ici au centre pour recevoir le vaccin et je viens de le recevoir. Je me sens très soulagé parce que je demandais souvent quand est-ce que nous serons vaccinés. Alors, je viens de l'avoir pour me protéger contre Ebola.
L'opération va durer environ 4 mois. Plus de 40 000 personnes seront ciblées dans 6 sites de vaccination. La coordination de la riposte se réjouit du début de cette opération. Docteur Steve Aouka est le coordonnateur de la riposte Ebola.
Nous sommes très contents qu'à partir d'aujourd'hui, que les activités du deuxième vaccin puissent commencer et ainsi contribuer à la riposte contre Ebola. Ceux qui ont reçu le premier vaccin sont bien protégés et n'ont pas d'intérêt à venir prendre ce deuxième vaccin. Ceux qui vont recevoir celui-ci seront immunisés et seront appelés à venir pour prendre une deuxième dose. Ces vaccins se donnent à deux doses, par exemple aujourd'hui et le second 56 jours après.
Sur les 500 000 doses attendues, quelques 22 000 sont déjà disponibles et stockées ici à Goma. Ce deuxième vaccin fabriqué par Johnson & Johnson, c'est un complément au premier vaccin fabriqué par Merck et déjà utilisé. Il ne remplace pas les premiers vaccins administrés dans les zones épidémiques, ont tenu à rappeler les autorités sanitaires de la RDC. Médecins sans frontières, l'un des partenaires de la RDC dans la riposte contre Ebola, se veut rassurant et précise que ce vaccin n'a aucun problème pour la vie humaine. Véronique Aubanien, coordonnatrice de la vaccination à MSF France à Goma.
Après, il faut savoir que ce n'est pas une campagne de vaccination, c'est vraiment une étude et que l'enrôlement dans cette étude est volontaire. Tout le monde est éligible, il suffit d'être âgé de 1 an ou plus, mais sinon tout le monde est éligible, à moins d'avoir une pathologie aiguë grave ou une pathologie chronique qui est en train de décompenser.
Signalons que ce deuxième vaccin a déjà été utilisé en Sierra Leone et en Ouganda. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, la haine publique et la stigmatisation socio-ethnique prennent des proportions inquiétantes. C'est un constat fait par le gouvernement et la société civile qui dénoncent de telles dérives très visibles dans le champ politique et dans les médias, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Il y a eu des messages de haine qui sont passés par le canal des organes de presse.
Les propos sont du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui a présenté lors du dernier conseil de cabinet une communication sur la montée des discours de haine sur les médias.
Ma communication visait justement à voir comment faire en sorte que la presse prenne conscience de la nécessité pour elle de travailler à la promotion de la conscience nationale.
Selon des observateurs, c'est depuis la tenue de la dernière élection présidentielle en 2018 que la haine, le tribalisme et la stigmatisation ethnique se sont invités dans les débats publics. Un point de vue que partage Ernesto Yené, acteur de la société civile au sein de l'initiative citoyenne.
C'est même la politique qui se sert de la montée de la haine. Lorsqu'on veut déjà conserver ou acquérir le pouvoir, on a toujours une tendance, je dis, facile à s'appuyer sur le village ou sur le groupe ou sur la tribalité. Nous savons par expérience que c'est un piège malsain dans lequel il ne faudrait pas que la population camerounaise tombe.
Sur le champ politique, les actes haineux sont les plus recensés. En raison de leur appartenance à certaines formations politique, certains Camerounais sont voués aux hégémonies. Un militant du MRC a été pris à partie le mois dernier dans la région du Sud. Sam Séverin Ango revient sur cette mésaventure.
Il s'agit des gens qui estiment que nous sommes ressortissants de la région du Sud et nous avons choisi de militer pour un parti qui est présidé par des ressortissants bamileke. Donc on nous a traités de traîtres, et je trouve que c'est lamentable aujourd'hui, en plein 21e siècle, qu'on puisse encore avoir de tels agissements.
Le parti au pouvoir, le RDPC, tient à se démarquer de cette forte tendance au tribalisme politique. Le parti diffuse abondamment ces derniers temps des messages du vivre ensemble. Roger Nkododang est député RDPC dans la région du centre.
Nous sommes Camerounais à partir du moment où nous appartenons au territoire camerounais. Et nous devons tous nous aimer, accepter de vivre ensemble les uns et les autres, sans distinction de langue ou d'ethnie.
Mais la société civile camerounaise pense que les bonnes intentions politiques seules ne suffisent pas pour faire taire les démons de la haine et du tribalisme. Initiative citoyenne a lancé une campagne de conception des messages contre le tribalisme et la haine au Cameroun. Ernesto Yené, acteur de la société civile.
Le but de cette campagne, c'est de collecter déjà ces messages qui vont être diffusés. Il y aura une session de formation avec des journalistes, avec des blogueurs, des lanceurs d'alerte, qui sont généralement des personnes qui sont les mieux indiquées dans les réseaux sociaux pour canaliser ou des dérives langagières. Il y aura aussi une campagne de sensibilisation avec affichage dans les transports publics.
Le Cameroun va organiser un double scrutin en février prochain pour l'élection des députés et conseillers municipaux. Certains Camerounais redoutent que le tribalisme et la haine gagnent en intensité durant cette période. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, un boom aurifère suscite la convoitise croissante de divers groupes armés. Les forces de sécurité peinent à contrôler les zones d'orpaillage dans des régions délaissées et parfois même abandonnées par l'État et où s'engouffrent les groupes djihadistes. Des groupes armés dont ces djihadistes trouvent dans l'exploitation aurifère artisanale une nouvelle source de financement, voire un terrain de recrutement, ce qui risque d'alimenter la violence au Sahel. Idriss Fall a joint Mathieu Pellerin, auteur du rapport à International Crisis Group.
J'en profite pour deux raisons. La première, c'est qu'on observe depuis quelques années un boom aurifère dans la partie nord du Sahel, dans des zones qui étaient déjà fréquentées par les groupes djihadistes. Donc nécessairement, les groupes djihadistes se sont rapprochés de ces sites aurifères. Je pense particulièrement à la région de Kidal, au nord du Mali. Et dans le même temps, vous avez une progression de ces groupes djihadistes dans des zones anciennement aurifères et qui jusqu'ici n'étaient pas sous la menace de ces groupes. Et là, je pense davantage, par exemple, au Burkina Faso, dans la partie septentrionale, où d'anciens sites aurifères artisanaux sont désormais sous influence de ces groupes djihadistes. Ensuite, comment ils en profitent d'un point de vue financier? Soit, je dirais, ils sécurisent certaines mines, se font payer de cette manière-là, mais ça, c'est beaucoup plus à titre individuel des unités djihadistes. Et d'une manière plus systémique, il y a la collecte de la zakat, l'impôt islamique, auprès de certains orpailleurs.
Des cas concrets au Mali ou au Burkina?
Oui, tout à fait. Dans l'extrême nord de la région de Kidal, dans les environs de Tinzawaten, vous avez quelques sites aurifères artisanaux qui sont sous influence de ces groupes djihadistes. De même que des cas, notamment à l'est du Burkina Faso, ont été rapportés, où une mine est restée longtemps et serait encore aujourd'hui sous l'influence de groupes djihadistes. Alors, il ne faut pas imaginer à chaque fois que ces groupes, militarisent le site aurifère ou ont des gardes armés à l'entrée de ces sites, mais c'est beaucoup plus une influence diffuse qui fait que les orpailleurs de ces sites miniers se doivent de collaborer avec les djihadistes.
La plupart de ces mines ne sont pas protégées par les gouvernements. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors?
Il y a un certain nombre de choses à faire. Tout d'abord, il faut quand même mentionner que il ne faut pas être alarmiste. Il n'y a qu'une très très infime minorité de ces sites aurifères artisanaux qui sont sous influence des groupes djihadistes. Et l'immense majorité de ces sites, la situation est relativement paisible. C'est une soupape sociale considérable pour les populations du Sahel, puisque 2 millions approximativement d'orpailleurs travaillent directement dans ces sites aurifères artisanaux et sans aucune influence de groupes armés. Donc ça reste un phénomène qui est minoritaire, mais qui est tout de même un sujet de préoccupation. Déjà, il faudrait mieux formaliser la relation que les gouvernements entretiennent avec des groupes armés locaux, je pense singulièrement à des groupes d'autodéfense, que ce soit les Kogléogo au Burkina Faso ou bien les Dozo dans le sud du Mali. C'est des groupes qui assurent une sécurité, je dirais, de proximité dans ce site, mais qui souffrent d'un manque d'encadrement et de régulation un peu de leurs activités. Donc il faudrait que les États soient plus actifs dans cet encadrement. Ça, c'est pour les sites qui ne sont pas, je dirais, directement sous la menace des groupes armés. Pour les sites qui sont plus directement immédiatement touchés par l'influence de ces groupes, là, l'État doit, dans la mesure du possible, possible, reprendre le contrôle de ces sites, assurer une sécurité par le déploiement de forces de défense et de sécurité, afin de limiter le risque de financement de ces groupes-là. Mais il faut qu'effectivement, ce soit des mines qui soient ciblées, parce que bien évidemment, au regard, je dirais, de la mobilisation croissante et peut-être même déjà excessive des forces de défense et de sécurité sur le front antiterroriste, elles ne peuvent pas se disperser et mobiliser davantage de moyens sur l'ensemble des sites miniers.
C'était Mathieu Pellerin, auteur du rapport d'International Crisis Group sur les sites aurifères du Sahel et les groupes armés.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, les services de citoyenneté et d'immigration ont naturalisé 833 000 personnes au cours de l'exercice 2019, un record depuis 11 ans. Parmi eux, ces personnes, c'est 60 nouveaux citoyens américains de 51 pays différents qui ont fait allégeance lors d'une cérémonie spéciale mardi au Musée national des Amérindiens à Washington. Saqib Oul Islam, son reportage, repris ici par Nathalie Barge.
Un petit drapeau américain à la main gauche, la main droite sur le cœur. Les 60 personnes debout ont prêté le serment d'allégeance aux États-Unis d'Amérique. Sandra Amoin, originaire du Ghana.
Cela signifie beaucoup de rejoindre l'un des plus grands pays du monde et de pouvoir le servir.
Pour ces personnes de 51 pays différents, il s'agissait de la dernière étape pour devenir citoyen américain. Mais cela marque aussi un nouveau départ dans leur vie. Yo Opoku est également originaire du Ghana.
Cela va ouvrir plus de portes pour moi, pour un jeune homme en devenir. C'est une excellente opportunité ici.
Devenir citoyen américain donne de nombreux privilèges, dont celui de pouvoir amener des membres de la famille aux États-Unis, d'être éligible à des emplois fédéraux et de se porter candidat à une charge publique. Mais dans cette foule, beaucoup étaient enthousiastes à l'idée de pouvoir voter. Somrin Amer, originaire du Pakistan.
J'ai obtenu ma citoyenneté et la partie la plus excitante. L'année prochaine, ce sera le vote et le voterai.
Bien que l'administration Trump ait proposé d'importantes réductions de l'immigration légale, les services de citoyenneté et d'immigration ont naturalisé 833 000 personnes au cours de l'exercice 2019, qui s'est terminé le 30 septembre. Un record de depuis 11 ans pour les serments de citoyenneté. Sarah Taylor, directrice par intérim du district de Washington, pense qu'une des raisons de l'augmentation des naturalisations pourrait être les prochaines élections.
Nous avons toujours eu une forte hausse avant une élection présidentielle. Elle est restée élevée ces deux dernières années et nous nous attendions à ce qu'il en soit ainsi.
Venant de pays tels que l'Afghanistan et le Yémen, ces nouveaux citoyens souhaitent un avenir radieux pour eux-mêmes et leur famille et espèrent que la naturalisation leur donnera de nouvelles opportunités pour réaliser le rêve américain.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.